pourrait sembler que les toutes récentes, enfin toutes récentes, elles ont maintenant un peu plus d'un an, les récentes lois sur la bioéthique du 29 juillet 1994, rendent nulle et non avenue la conférence que je vais vous faire. En effet, promulguée ce jour-là, il y eut deux lois dont l'une concernait le corps humain et relative au corps humain, et un des articles de cette loi interdit toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes. Il semble donc que la sélection des personnes, des êtres humains, soit une chose qui soit rigoureusement interdite, et donc qu'on puisse dormir sur ses deux oreilles, tranquille, il n'arrivera rien. Eh bien, il faut malheureusement réviser un petit peu ce jugement, et nous allons pouvoir constater que la sélection des personnes, non seulement n'est pas interdite, mais elle se fait. Il y a en France une pratique qu'on appelle eugénique. Essayons de préciser un tout petit peu ce que c'est que l'eugénisme. M. l'abbé Troadec vient de citer ce mot. Disons un petit peu ce qu'il représente. Précisément, le mot eugénique signifie une certaine sélection des personnes. C'est un mot qui est d'apparition assez récente, il date du siècle dernier. Il a été inventé par un Anglais, un certain Francis Galton, qui était le cousin de Charles Darwin. Peut-être ce nom vous dit quelque chose. Et ce mot est d'après, enfin, si on prend le Larousse par exemple, c'est une étude théorique et pratique de tous les moyens capables de protéger, d'accroître et de perfectionner les éléments les plus robustes et les mieux doués des races humaines, c'est-à-dire de sauvegarder la qualité génétique des générations futures. Évidemment, le mot eugénisme a assez mauvaise presse depuis les tragiques événements qui se sont déroulés au cours de la dernière guerre. Mais en réalité, le mot eugénisme et l'eugénisme lui-même étaient employés à grande échelle bien avant Hitler. Ce n'est pas Hitler qui a commencé. Dès 1910, aux États-Unis, les pratiques eugéniques avaient débuté. Et peu de temps après, dans à peu près tous les pays non catholiques, je veux dire qu'ils n'avaient pas une tradition catholique. Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Alors on a changé le mot maintenant, mais ça continue à exister malgré le fait qu'on voudrait nous faire croire que ça n'existe plus. La bête immonde est morte. En réalité, il n'en est rien. Pour que nous puissions organiser un petit peu ce bref résumé, il faut que nous ayons quelques notions de la manière dont on peut qualifier l'eugénisme. Voici comment le dictionnaire catholicisme décrit l'eugénisme. Il dit qu'il traite donc cette science, ce n'est pas tout à fait une science, mais enfin cette méthode, traite la quantité de la population. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la quantité de la population. Ce sont toutes les mesures qui peuvent soit diminuer, soit tenter d'augmenter la population. Alors il y a des mesures positives qui sont favorables à l'accroissement du nombre, comme l'interdiction de l'avortement, la propagande néo-malthusienne, c'est-à-dire la propagande contre la contraception, et puis l'institution de prestations familiales, de quotients familiaux de fiscalité, etc. Et puis il y a des mesures négatives, c'est dans l'autre sens. C'est la propagande anticonceptionnelle, les avortements légaux, la stérilisation. Donc, il y a des mesures qui visent la quantité de la population. Ce sont des choses tout à fait actuelles. Vous savez que, par exemple, la conférence du Caire, il y a un an, s'est intéressée tout particulièrement à cela. C'est un des, comment dire, des leitmotifs de l'ONU. C'est une de ces psychoses, j'allais dire, de l'ONU. La quantité de population. Nous sommes trop nombreux, nous sommes menacés par la bombe S, S veut dire surpeuplement, et il faut arrêter tout ça. Et puis, il y a des problèmes intéressants, la qualité de la population. C'est-à-dire mesures portant sur l'hérédité, normale ou pathologique. Et puis, alors ces mesures peuvent être positives et négatives. Et puis, des mesures portant sur le milieu. Bon, lutte contre les fléaux sociaux, contre l'alcoolisme, la tuberculose et maladies vénériennes. Ça, c'est tout ce qui vise la qualité de la population. C'est-à-dire qu'on va essayer d'élever la qualité de la population, soit en travaillant sur le milieu, ce qui est le plus facile en général, soit en travaillant directement sur l'hérédité. En travaillant sur l'hérédité, c'est plus difficile, mais vous allez voir que c'est une chose à laquelle l'homme a toujours pensé. Donc, voyez, eugénisme portant sur la quantité, sur la qualité. Et eugénisme qui peut être positif ou négatif. Positif, c'est-à-dire on essaye d'élever, négatif, on essaye d'éliminer. Bon. Et enfin, on peut donner une dernière distinction, c'est l'eugénisme qui est nécessaire aujourd'hui, l'eugénisme collectif ou individuel. C'est-à-dire individuel, c'est celui qui est pratiqué par les individus dans la société. C'est-à-dire qu'on les laisse libres de le faire et ils le font comme ils veulent. Ni collectif, ce serait l'État qui décide de le pratiquer de manière systématique à grande échelle. Nous allons voir que, précisément, ce qui caractérise la position en France, et surtout celle-là que nous allons traiter, eh bien, c'est que nous avons un eugénisme qui est individuel, et c'est ça qui permet à l'État de dire, voyez-vous, on ne fait rien de mal, mais en réalité, pousser, l'État étant derrière et poussant de toutes ses forces pour que cet eugénisme se réalise. C'est un petit peu Ponce-Pilate qui se lave les mains en disant, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai poussé. Ah, ça, c'est simplement pour que vous ayez un petit peu que les mots soient fixés. Je vais également faire un petit rappel historique, parce que, très rapide, parce que vous allez voir, l'eugénisme est une vieille tentation de l'humanité, une très vieille tentation de l'humanité. Ça existe presque depuis que l'homme est homme, depuis le péché originel plus exactement. Dès l'instauration d'une civilisation, voyons par exemple dans le monde grec, eh bien le monde grec avait un eugénisme très organisé. Il avait un eugénisme à la fois positif, c'est-à-dire il essayait d'élever le degré de la population, alors par tout un tas de mesures. Par exemple, comme le dit Platon, Platon le demandait, et certaines villes grecques l'ont réalisé, et en sélectionnant les personnes à marier. C'est un eugénisme positif. On sélectionne les personnes à marier. On interdit certains mariages et on essaye de marier les personnes les plus fortes, les plus intelligentes entre elles, par exemple. Bon. Mais ça, évidemment, ça mène pas très très loin. On s'est rendu compte que il y avait assez peu de résultats. Mais si on consultait l'histoire grecque, vous verriez que c'est tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Toutes les villes, enfin presque toutes les villes grecques, les grandes villes grecques, Thèbes, Athènes, Sparte, en parlent et le pratiquent plus ou moins. En revanche, c'est dans l'eugénisme négatif que là se développe, se déploie l'ingéniosité des Grecs. C'est beaucoup plus facile. Alors évidemment, il y aurait la contraception, mais la contraception à l'époque n'était pas très très efficace. En revanche, il y a l'avortement. L'avortement qui est assez facilement pratiqué. Bon. Mais l'avortement à l'époque était dangereux. On tuait à peu près autant de fois la femme que l'enfant. Alors, évidemment, c'était un petit peu dangereux. Donc, on ne pratiquait pas l'avortement, on pratiquait ce qu'on appelle l'exposition. L'exposition des enfants. Exposer un enfant, ça veut dire, une fois qu'il est né, ben, le mettre dans la rue puis s'en aller. C'est ça l'exposition. Et puis, ben, après, on verra ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il y avait un certain nombre d'enfants qui mouraient. Il y en avait qui étaient ramassés pour devenir des esclaves. On appelait les alumni. Alumni, ça veut dire ceux qui sont nourris par quelqu'un d'autre. Donc, on les ramassait et on en faisait des esclaves. Et alors là, on en faisait toutes sortes d'esclaves. Et puis, il y en a d'autres qui étaient encore plus vigoureux. Il y avait carrément l'infanticide. L'infanticide, c'est à Thèbes, en particulier, où il y avait un gouffre qu'on appelait le gouffre des apothètes. Et il y avait un conseil de révision, figurez-vous, dès que l'enfant était né, il y avait un conseil de révision, ça commençait tôt à l'époque. C'est pas à Thèbes, c'est à Sparte. Et on examinait l'enfant, il y a un conseil de sages qui examinait l'enfant, et si on considérait que l'enfant était bien constitué, on le gardait, on lui attribuait une des parts, parce qu'il y avait des parts d'héritage qui étaient attribuées, et il y avait un nombre fixe, on ne pouvait pas dépasser, et si on ne considérait pas comme qu'il n'était pas bien constitué, on l'envoyait jeter au gouffre des apothètes, sans que personne ne puisse rien dire, les parents pas plus que d'autres. Voyez-vous, caractéristique d'un eugénisme négatif. On élimine tous ceux qu'on estime qui ne sont pas bien constitués. Alors, cette chose s'est pratiquée aussi bien en Grèce, je vous ai donné l'exemple de la Grèce, mais elle s'est pratiquée aussi à Rome. À Rome, ça a été assez caractéristique. Vous savez que le père de famille avait droit de vie et de mort sur son enfant, d'ailleurs, pendant très longtemps, jusqu'à un âge, même adulte. Enfin, ça s'est plus ou moins atténué après, mais au début, c'était ainsi. Et le père, à la naissance, eh bien, décidait ou non de garder ou pas l'enfant. Comme un petit peu comme chez les Grecs. Et ça a été tellement organisé, cela, que la Grèce en particulier, eh bien, est morte de cela. Évidemment, vous comprenez, avec un système pareil, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été la dénatalité. À force de lutter pour arriver à garder un nombre constant, il a fini par avoir dénatalité. Ce qu'on constatait déjà les écrivains grecs de l'époque. Je pourrais citer. C'est très intéressant, c'est Polybe, je crois. Voilà ce que dit Polybe. C'est un historien grec. Si quelqu'un s'avisait d'envoyer demander aux dieux ce qu'il faudrait dire ou faire pour que nous nous retrouvions plus nombreux et pour que nos villes soient plus peuplées, cette démarche ne semblerait-elle pas absurde, puisque la cause du mal est évidente et qu'il dépend de nous d'y remédier? Les gens de ce pays ont cédé à la vanité et à l'amour des biens matériels. Ils ont pris goût à la vie facile et ils ne veulent plus se marier. Ou quand ils le font, ils refusent de garder les enfants qui leur naissent ou n'en élèvent tout au plus qu'un ou deux afin de pouvoir les gâter durant leur jeune âge et de leur laisser ensuite une fortune importante. Voilà ce qui se passait en Grèce. Voyez-vous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous croiriez que c'est un écrivain d'aujourd'hui qui a écrit cela. Et alors ensuite, il y a eu, quand la Grèce s'en est rendue compte, ils ont essayé de faire une réaction, mais ça a été trop tard. Ça a été trop tard. Quand on joue avec les lois de la vie, la démographie, c'est très difficile à contrôler. Et quand ils ont voulu réagir, il était trop tard. Voilà ce que disait Aristote à ce sujet-là. Aristote raconte la chose. Les sources de la vie ayant été taries, l'État se trouva sans force et désarmé. La législation lacédémonienne, revenant sur cette coupable et funeste erreur, exempta du service militaire le père de 3 enfants et de tout impôt le père de 4 enfants. Ces mesures venaient trop tard pour réagir utilement contre les habitudes enracinées. Sparte, d'après Xénophon, était tombée par le nombre de ses habitants au dernier rang des villes de la Grèce. Dernier rang de la ville de la Grèce. C'est-à-dire, ça, ensuite, c'est l'historien qui commente, en 150 ans, elle avait perdu les 7/8 de sa population. En 150 ans. Et vers cette dernière époque, Aristote ajoutait, ce pays capable de fournir 1500 cavaliers et 30 000 hoplites compte à peine 1 millier de combattants. Aussi, l'État n'a pu supporter un revers unique et c'est la disette d'hommes qui l'a tué. Donc, voyez-vous, c'est une chose cet eugénisme négatif est une chose qui a été pratiquée depuis très longtemps. À Rome, ça a été la même chose. À Rome, on voit Auguste, on voit l'empereur Auguste, interpeller les sénateurs en leur disant « Mais vous êtes la honte du pays parce que vous refusez d'avoir des enfants. » Effectivement, avec la richesse, ils refusaient d'avoir des enfants. Et ça va être le drame. Auguste interpellait, l'empereur interpellait ainsi les sénateurs. Donc, cette régulation quantitative, cet eugénisme, existait donc dans l'Antiquité. Et puis, avec, Avec le catholicisme, voilà que ça disparaît. Il y a ainsi un auteur, j'aime beaucoup cette phrase, c'est un auteur qui est un auteur marxiste, qui fait un historique un petit peu de cette question, et voilà, il avoue, enfin, il ne se rend même pas compte de ce qu'il écrit, mais il dit la chose suivante. Avec l'évangélisation chrétienne, l'élimination des enfants indésirables disparaît, du moins officiellement jusqu'à la Renaissance. Cet auteur reconnaît implicitement ce qu'a fait le catholicisme. Et notez bien, il dit jusqu'à la Renaissance. À la Renaissance, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le protestantisme qui est né, et c'est reparti. Mais il est clair que le catholicisme a été une magnifique... Enfin, l'ère du catholicisme vécu dans les États a été une ère de magnifique paix, en quelque sorte, dans cet eugénisme. Ça a été l'arrêt. Il faudrait lire tout ce que les pères de l'Église, par exemple, ont dit sur cette question, toutes les accusations. C'est impressionnant de lire ce que les pères de l'Église ont, des premiers siècles, leur lutte contre cet eugénisme, contre ces assassinats. Voilà, par exemple, ce que dit Saint Justin. Saint Justin, il est du IIe siècle. Il a été martyrisé vers l'an 165. Quant à nous, bien loin de commettre l'injustice ou l'impiété, nous regardons comme un crime d'exposer les enfants. Il en donne deux raisons. La seconde raison pour laquelle nous n'exposons pas les enfants, c'est que nous craignons que, faute de quelqu'un qui les recueille, ils ne viennent à mourir et que nous ne soyons coupables d'homicide. Quant à la première, la voici. D'abord parce que c'est de les vouer tous à la prostitution, non seulement les jeunes filles, mais les jeunes garçons. De même qu'autrefois on élevait les troupeaux de bœufs et de chèvres, de moutons et de chevaux, ainsi aujourd'hui on élève des enfants uniquement en vue de la débauche. Voilà ce que disait Saint Justin, voyez-vous, au IIe siècle. Et les pères de l'Église sans cesse vont revenir là-dessus. Ils vont lutter, on a des pages magnifiques, ils luttent contre cette exposition, et ils vont petit à petit, grâce à la christianisation, ils vont obtenir des lois de la part du gouvernement civil à partir de Constantin, précisément. Dès que le christianisme est implanté dans l'État, à partir de Constantin, on obtient des lois pour protéger immédiatement les enfants. Voilà, dès 315, la loi portée par Constantin, sous l'influence de Lactance, Lactance était un des pères de l'Église, il n'est pas saint, mais c'est un des pères de l'Église, et il a été en particulier précepteur des enfants de Constantin. Voilà la loi qu'il porte, que toutes les villes d'Italie aient connaissance de cette loi dont le but est de détourner la main des pères du parricide et de leur inspirer de meilleurs sentiments. Si donc quelque père a des enfants auxquels sa pauvreté l'empêche de donner des aliments et des vêtements, ayez soin que notre fisc et même notre domaine privé leur en procure sans délai, car les secours à donner aux enfants qui viennent de naître ne comportent pas de retard. Je ne sais pas si vous mesurez la distance qui sépare cette phrase, cette loi, de ce qui se faisait dans le monde grec et romain 300 ans auparavant. C'est absolument impressionnant la manière dont le catholicisme a réussi précisément à christianiser l'État. Voilà qu'il y a déjà les allocations familiales qui arrivent. Appréciation familiale. Bon, et puis il y aura d'autres lois justement pour prévenir l'infanticide ou l'avortement, des lois très sévères, des lois ecclésiastiques également, qui punissaient les chrétiens, éventuellement, ou les catéchumènes qui s'y livraient, justement pour lutter et pour obtenir le triomphe sur ce point. Voilà donc ce qui se passait dans l'Antiquité. Donc voyez-vous, le problème, il est très vieux et en même temps très récent, parce que avec la lutte contre le catholicisme, avec la Révolution, eh bien, le protestantisme, déjà, ces lois vont réapparaître. Et les premières lois qu'on trouve de ce genre-là, c'est dans des pays protestants. En Suède, dès le XVIIIe siècle, et en Allemagne, à la même époque. Dès cette époque-là, on retrouve de nouveau, on voit repoindre des lois dans ce domaine. Et c'est la Renaissance qui est coupable, parce qu'on trouve chez Montaigne, chez Rabelais, ou chez... Vous connaissez tous Montaigne et Rabelais, ou chez le dominicain Campanella. Campanella est un dominicain qui a passé une bonne partie de sa vie dans les prisons du Saint-Office. Bon, pour vous dire un peu le personnage. Et ils avaient commencé à envisager, à revenir sur cette question de l'eugénisme. Et ils ont, C'était dû d'ailleurs à un certain retour à l'admiration de la nature dans le paganisme. Et puis, eh bien, quand le protestantisme est arrivé, on a commencé à faire ce genre de loi. Et ensuite, ça a été petit à petit, avec les moyens qui devenaient de plus en plus grands, eh bien, on est arrivé à la situation actuelle dont nous allons parler maintenant. C'est-à-dire, on est arrivé à cette situation dans laquelle nous vivons un état de véritable eugénisme. Il y a une sélection des êtres humains aujourd'hui, en France en particulier. C'est peut-être pas encore en France, enfin si, en France, sous un certain aspect, c'est ce qu'il y a de pire dans le monde, sous un certain aspect. Il y a d'autres aspects, où il y a d'autres pays qui font bien de pire, mais sous un certain aspect, c'est ce qu'il y a de pire en France. Bon, nous allons voir sous quel aspect. Alors, essayons d'examiner la situation actuelle. La situation actuelle, elle est due d'abord à une idéologie. Bien comprendre, il faut savoir d'où parle l'eugénisme. L'eugénisme, eh bien, il y a une idéologie derrière. Cette sélection des êtres humains, il y a une idéologie. Et je vais vous citer un certain nombre de textes qui vont vous montrer d'où vient, quel est le genre de cette idéologie. Voici ce que disait M. Badinter. À l'époque, il était garde des Sceaux, c'est en 1985. Bon. Il présidait, enfin, il ouvrait, il y avait un colloque sur le droit et la procréation. C'est à cette occasion-là qu'il a fait cette conférence, une petite conférence d'ouverture. Voici ce qu'il disait. En bref, notre société se trouve confrontée par le progrès des sciences médicales et biologiques. Le mot progrès est à bien noter, nous allons voir, tout est là. Par le progrès des sciences médicales et biologiques, à une remise en question de certaines conceptions fondamentales sur lesquelles repose son équilibre. Il s'agit donc de remettre en question les conceptions fondamentales sur lesquelles la société repose. Et il ajoutait, il s'agit ici non seulement de problèmes moraux suscités par la recherche et posés le plus souvent aux chercheurs et médecins eux-mêmes, mais de choix qui définissent l'organisation de notre société dans certains domaines essentiels, notamment ceux de la filiation et du patrimoine génétique. Parce que si on commence à remettre en question ce domaine-là, vous comprenez que tout va éclater. Il n'y a plus de famille. Il n'y a plus de famille. Il n'y a plus de rapport entre les hommes. Si la filiation est remise en question, c'est la société complètement éclatée, totalement séparée. Les êtres deviennent des êtres. C'est déjà ce qui se produit. On aboutit à ce qu'on appelle la dissociété. C'est le mot de M. Marcel de Corte. Bon. Et je vais vous citer d'autres témoignages qui vont bien vous montrer où se trouve le problème. Voici, cette citation est antérieure de 6 ans à la précédente. Elle a été faite par un certain Corneloup. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, M. Corneloup. Bon, à l'époque, il était grand maître ad vitam de la Grande Loge de France. Bon. Et il a fait une conférence très intéressante à la Sorbonne à cette époque. C'était au moment où on discutait, il y avait les préparations de la conférence de Bucarest, qui était une conférence sur la population, comme celle a été celle du Caire l'année dernière. Et on préparait cela. Et il fallait préparer les esprits. Donc, il y a eu deux ou trois colloques qui ont été organisés en France à cette occasion. Pour être vraiment efficace, l'œuvre à entreprendre ne devra pas se contenter d'être légale. Elle devra être accompagnée d'une action éducative basée sur l'enseignement d'une nouvelle morale. Une nouvelle morale. Et nous allons voir, je vais vous citer ensuite d'autres textes très intéressants sur cet enseignement de la nouvelle morale, comment maintenant elle est passée dans l'enseignement officiel. Vous allez voir. Cette nouvelle morale instaurera en fait une ère nouvelle, celle d'une société de qualité. Ah, le mot est prononcé, celle d'une société de qualité. Je reviendrai tout à l'heure, parce que, précisément, le nouveau barème qui explique tout, c'est ce qu'on appelle la qualité de la vie. Vous savez qu'il y a eu, je crois qu'il n'y en a plus à l'heure actuelle, il y a eu un ministère de la qualité de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, la qualité de la vie? Ah, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, nous allons voir que ce problème de qualité de la vie est capital, il est central. Parce que c'est par rapport à lui que tout va être mesuré. Le même auteur, l'eugénisme, bien compris, et l'euthanasie devront être pratiqués par les médecins en toute tranquillité de conscience, sans qu'ils soient écrasés par leur responsabilité morale. Cela nécessite une réforme déchirante de la déontologie médicale en fonction de la nouvelle morale. Sachez que dans le dernier code de déontologie, publié il y a un mois à peu près, l'euthanasie n'est pas instaurée. On ne peut pas dire cela, mais il y a un premier pas qui est fait. C'est-à-dire que il est dit que le médecin ne doit pas pratiquer ce qu'on appelle l'obstination thérapeutique. Bon, ça c'est très grave, parce que jusqu'ici il y avait une notion qui était appelée l'acharnement thérapeutique. Or l'acharnement thérapeutique, ça c'est vrai, on ne doit pas faire d'acharnement thérapeutique. C'est de la morale naturelle, on va faire d'acharnement thérapeutique. En revanche, l'obstination thérapeutique avait été définie par un président de l'Ordre des médecins il y a 20 ans comme l'effort raisonnable à faire pour essayer de soulager quelqu'un. Et c'est précisément le nouveau code de déontologie qui a choisi d'écarter l'obstination thérapeutique, pas l'acharnement, l'obstination thérapeutique. Comprenez qu'entre dire qu'on ne va pas faire d'obstination thérapeutique et l'euthanasie passive, il n'y a qu'un pas. Où est-ce qu'est la frontière? Où est-ce qu'est la frontière? Vous voyez, quand M. Cornoulou dit quelque chose, ça finit par arriver. Ça met un petit peu de temps, mais ça finit par arriver. Bon. Ce que disait également, encore un peu plus tôt, le docteur Perret. Le docteur Perret a été un membre de... je crois que ça s'appelait l'UPF à l'époque, là, je ne me rappelle plus très bien, le nom du parti, enfin, c'est l'ancien parti de la majorité de l'époque, et il était celui qui luttait pour la loi sur l'avortement dans ce parti. Il écrivait donc à ses collègues pour essayer de les pousser à accepter cette... Il avait même une proposition de loi qui finalement ne va pas réussir, ce sera la loi Veil qui réussira 5 ans après. Ce sont là des choix qui s'imposeront et qui contribueront à asseoir la morale sur d'autres fondements. On peut regretter cette évolution, certes, mais nous ne pouvons nous y opposer et encore moins l'ignorer. Peu de temps après, dans le même débat, le docteur Trémaux, qui travaillait avec le docteur Perret, écrivait aussi « D'autre part, les progrès de la médecine font qu'à la sélection naturelle devra succéder de plus en plus la sélection artificielle. » Donc maintenant, il va falloir faire une sélection artificielle. Ah, qui dit sélection artificielle? Le mot sélection. On sélectionne quoi? On sélectionne qui? On sélectionne comment? Voilà les questions qu'il faut se poser. Et enfin, voilà ce que me disait M. Giscard d'Estaing, à l'époque président de la République. C'est un discours du 24 septembre à la Sorbonne pour la clôture du colloque « Biologie et devenir de l'homme ». C'est à nous, dit-il, de préparer la morale nouvelle qui en gouvernera, c'est-à-dire qui gouvernera la conduite de l'espèce humaine. À nous d'inventer la morale de l'espèce. À nous d'inventer la morale de l'espèce au seul niveau où ce soit possible, celui du monde. Celui du monde. C'est extraordinaire ce texte quand même. Vous avez tous les ingrédients que nous trouvons aujourd'hui, le mondialisme et cette morale de l'espèce. Une morale de l'espèce, qu'est-ce que ça veut dire, une morale de l'espèce? On peut se poser des questions. Alors, évidemment, ces textes sont impressionnants, vous allez me dire, mais malgré tout, il y a quand même ce texte de loi, est-ce qu'on est parvenu un peu dessus? Ce texte de loi du 29 juillet 1994, que je vous ai lu tout à l'heure, est-ce que finalement on n'a pas donné un petit coup d'arrêt? Eh bien non, cette idéologie continue et elle travaille. Et elle, non seulement elle travaille, mais elle produit des fruits. Je commence, je résiste pas au plaisir de vous lire d'abord ce qu'il y a dans le code, le nouveau code pénal. Vous savez, le nouveau code pénal qui est entré en vigueur en 1993. Voilà ce qu'il dit. Il définit le génocide, qui est un crime contre l'humanité. C'est le fait, en exécution d'un plan concerté, le génocide est défini comme le fait en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire. Nous allons voir quels critères on pourrait mettre. De commettre ou de faire commettre à l'encontre de ce groupe l'un des actes suivants: atteinte volontaire à la vie, atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle de groupe, mesure visant à entraver les naissances, transfert forcé d'enfants. Bien. Et voici maintenant le texte exact du programme officiel de biologie des classes de 4e. La régulation des naissances, objet de la contraception, est replacée dans son contexte social afin de développer le sens du respect de la vie, s'il vous plaît, et celui des responsabilités du futur citoyen et parent. La recherche des moyens de la contraception constitue une application directe des notions de physiologie acquises. Bon, après, il y a quelque chose qui est inutile. L'avortement, dont les limites légales de prescription seront indiquées, apparaît alors non comme une méthode de contraception, mais comme un palliatif exceptionnel d'un accident de contraception ou d'une situation difficile. Enfin, mais c'est extraordinaire, parce que ça, c'est réprouvé normalement dans la loi. Il sera à nouveau mentionné en classe de 3e comme traitement préventif d'une anomalie grave décelée in utero, mongolisme. Ça, c'est la classe de 4e et 3e. Alors, on parlait d'une atteinte, vous disiez, d'une atteinte d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire. Le mongolisme, vous savez, c'est ce qu'on appelle la trisomie 21. Est-ce que ce n'est pas un groupe, ça? Est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui sont atteints de cette maladie? Est-ce que les sélectionner, les mettre dans un groupe à partir de cette anomalie et de dire, eh ben, on peut faire un traitement préventif, comprenez, on peut les éliminer, est-ce que ce n'est pas un génocide, ça? Est-ce que ce n'est pas un génocide? Vous commencez à comprendre comment, malgré les belles promesses, eh bien, tout s'organise malgré tout pour l'élimination d'un certain groupe, de plusieurs groupes même, c'est-à-dire en particulier des tarés, des pauvres, des malheureux de ce monde, de ceux qui ont le malheur d'avoir un tout petit peu le nez de travers ou quelque chose comme ça. Et quand je dis ça, vous allez voir, ce n'est pas une exagération. Pour vous montrer que c'est réellement admis, voici deux nouvelles, enfin, elles ne sont pas très très récentes, mais une cour d'appel de Lyon, voilà, a condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à verser 5000 francs de rente mensuelle à un enfant trisomique, donc mongolie, et 200 000 francs de dommages et intérêts à ses parents pour n'avoir pas décelé l'anomalie de l'enfant en 87 lors d'une amniosynthèse. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils sont coupables. Ils n'avaient pas vu qu'il était malade. Ils n'avaient pas vu qu'on pouvait le passer à la trappe. Et ça, c'est un jugement qui a été admis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de tri, il n'y a pas de sélection, là? Mais où est-ce qu'on est? Quel est le... Enfin, comment peut-on arriver à mentir de cette manière-là? Et c'est pas le seul cas. Il y en a... Bon, alors ça, c'est en France, parce que si on passe à l'étranger, il y en a d'autres qui ont été condamnés de cette manière-là. Un autre cas est rapporté ici. Une femme de 35 ans a porté plainte pour privation de droit à l'avortement thérapeutique à l'encontre du médecin qui avait pratiqué les échographies durant sa grossesse, au terme de laquelle elle avait accouché d'un enfant n'ayant qu'un bras. Elle reproche à l'échographiste de ne pas l'avoir détecté le handicap. Rien que le fait de pouvoir le porter dans les tribunaux, c'est déjà assez extraordinaire. Mais, bon, cette histoire était de 93. Je crois qu'elle a obtenu satisfaction en première instance, mais qu'elle a été déboutée en deuxième instance, si je me rappelle bien. Bon. Mais enfin, elle a quand même obtenu satisfaction en première instance, et l'affaire n'est pas finie. Et il existe encore... bon, enfin, ça, ce sont, sont deux cas, mais il y a un certain nombre d'autres cas qui ont été... portés devant les tribunaux et pour lesquels les parents ont obtenu satisfaction. Maintenant, toujours pour vous montrer qu'il y a bel et bien une certaine poursuite d'une certaine catégorie, ça c'est simplement pour vous montrer que l'idéologie est bien mise en place, eh bien, il a été mis au point un test qu'on appelle le test HT21. HT21 pour trisomie 21. Eh bien, ce test, il a été mis au point et il permet de détecter normalement, évidemment, il y a toujours des faux positifs ou des faux négatifs, il permet de détecter les cas de trisomie 21. Eh bien, ce test, il a commencé par être condamné par le Comité consultatif national d'éthique. Vous savez que nous possédons en France un Comité consultatif national d'éthique. Normalement, il n'est que consultatif. Bon. Il est national, mais comme disait le professeur Lejeune, il est présidentiel, parce que tous ses membres sont nommés directement ou indirectement par le président de la République. Donc, en réalité, il est présidentiel. Il a commencé par le condamner, mais le ministre, d'ailleurs, a dit « oui, c'est pas bien ». Mais finalement... Le ministre a fini par dire, mais la responsabilité appartient aux parents. Alors je vous disais tout à l'heure, méfiez-vous, individuel ou collectif, il faut distinguer. Qu'est-ce qui se passe ici? On dit ça appartient aux parents, mais finalement le test, on est d'accord, on le met en place. Nous, on ne fait pas de choses systématiques, mais les parents font ce qu'ils veulent. C'est une autre manière de dire, de pousser les gens à faire un avortement. Parce que maintenant que nous avons vu cette idéologie en place, eh bien, nous avons vu qu'elle se met en place à travers même l'école, il faut voir qu'il y a, en plus de cette idéologie, une pression effroyable qui est faite sur les parents. Une pression incroyable. Et j'aimerais mettre en évidence les éléments de cette pression. Il y a tout d'abord une pression morale. Une pression morale qui est très importante. Cette pression morale, elle a plusieurs éléments. Il y a tout d'abord toutes les organisations qui luttent pour la mise en place de l'avortement. Alors, il y a évidemment beaucoup d'organisations de par le monde. La plus célèbre étant, comme vous le savez, le planning familial. Le planning familial a une branche française, le mouvement français pour le planning familial. Eh bien, ce planning familial fait une pression incroyable à la fois pour la législation et par l'intermédiaire de ces cliniques sur les parents. C'est une des associations qui a le plus de soutien financier de l'État. Et donc, ça lui permet en particulier de faire la plupart des réceptions des femmes enceintes qui pensent à avorter. Vous savez que toute femme enceinte qui pense à avorter doit normalement avoir un entretien avant. Eh bien, c'est le planning familial qui, par sa diffusion, par l'argent qu'il possède, arrive à capter les femmes pour ces entretiens. Et évidemment, vous comprenez bien qu'en général, qu'est-ce qui se passe? Ça se termine par un avortement. Ça se termine toujours par un avortement. Bon. Il y a la pression qui est exercée de manière économique sur les parents. Parce que, malgré tout, c'est une chose... Bon, les enfants sont plus ou moins pris en charge quand il y a des anomalies, mais c'est quand même quelque chose de très lourd. Et on essaye toujours de montrer aux parents la charge financière énorme que ça va être, ou les difficultés énormes que ça va présenter, si jamais ils ont un enfant qui est anormal. Bon. Mais cette pression morale, ce n'est pas encore la plus forte. Ce qui est la plus forte, c'est la pression médicale. La pression médicale sur les parents, c'est quelque chose d'incroyable. D'incroyable. Voici oui, il y a un élément, j'ai oublié un élément. Dans les notions de la pression morale, oui, il y a un élément qui est important, c'est cet élément que je vous ai signalé, c'est l'élément sur la qualité de la vie. Vous en avez parlé tout à l'heure. La notion de la qualité de la vie. C'est-à-dire que je vais reciter M. Corneloup et ensuite on va en faire un petit commentaire. C'est une autre partie de la même conférence que je citais tout à l'heure. Il est donc capital que le législateur, dont la responsabilité se situe avant celle du médecin, ait la claire vision de la réalité des dangers qui menacent, qu'il soit persuadé de la nécessité de fournir les moyens de parvenir à la société de qualité, qui ne peut être fondée que sur des hommes de qualité. Qualité physique aussi bien que mentale. Si le législateur refusait aux médecins les moyens légaux de remplir sa tâche, toute sa tâche, la marée démographique ne pourrait être endiguée. Il doit être aussi bien compris que l'œuvre ne devra pas être circonscrite à tel ou tel pays hautement développé. Le problème démographique doit être également résolu dans les pays sous-développés. Sans doute, les moyens d'application devront-ils varier, mais leur généralisation est d'autant plus indispensable que les pays sous-développés sont justement ceux où le taux de natalité est le plus élevé. Il faut que le législateur ait le courage de prendre parti, même si quelques éléments lui manquent, pour être absolument sûr de la valeur de son choix. Alors, je vais parler de la France, bien sûr, mais quant aux pays sous-développés, vous savez qu'il y a eu des moyens, il y a toujours des moyens de pression considérables sur eux pour qu'ils diminuent leur natalité. Il y a eu une fameuse conférence de Dhaka en 1969 du planning familial où on a imaginé tous les moyens qu'on pourrait mettre en œuvre pour diminuer la natalité. Alors ça allait depuis le déversement dans les eaux de produits stérilisants. Il y avait également la proposition de taxer les familles nombreuses, au lieu de les aider, de les taxer. Il y avait des stérilisations forcées, c'est ce qu'a accompli l'Inde. Madame Gandhi, quand elle a proclamé l'état d'urgence, c'est ce qu'il a fait, d'ailleurs c'est la chose qui a provoqué la chute de son gouvernement, a réussi à faire stériliser en un an 8 millions d'Indiens. 8 millions d'Indiens. Et ça sous la pression du planning familial, qui par l'intermédiaire de l'ONU et des gros financements de l'ONU, promettait de l'argent justement pour l'Inde. Bon. Donc, pour les pays sous-développés, alors on a découvert, oui, c'est extraordinaire, on a découvert tout récemment que un vaccin préparé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donc sous responsabilité de la plus haute instance médicale normalement dans le monde, eh bien, l'enquête est à peu près terminée, enfin, l'enquête au point de vue purement médical, il reste l'enquête à mener au point de vue comment savoir comment c'est arrivé. Eh bien, ce vaccin contenait une substance stérilisante. C'est un vaccin destiné aux pays sous-développés et il contenait une substance stérilisante. Rendez compte, hein, un vaccin contre le tétanos. Ce vaccin contre le tétanos contenait une substance stérilisante. C'est-à-dire que les médecins qui faisaient une vaccination contre le tétanos stérilisaient les femmes à qui ils donnaient ce vaccin. Et ça a eu, il y a deux endroits où ça a été, où ça a fini par être décelé, c'est au Guatemala et aux Philippines. Alors les médecins philippins se demandaient pourquoi certaines femmes avaient des difficultés pour enfanter. Bon. Et puis il y en a un qui dit, mais c'est vraiment curieux, il a fini par faire des dosages de certains anticorps dans le sang, à y penser, et puis ben là on s'est rendu compte, tiens, c'est curieux, il y a telle substance qui a dû être injectée. Ils ont cherché où est-ce que ça peut bien venir, et on a fini par découvrir que ça venait de ce vaccin-là. C'était dans ce vaccin-là qu'était mis une hormone bon, qui provoque des réactions d'anticorps et qui ensuite provoque une stérilité. Voilà ce que fait l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Bon. Donc, vous voyez que pour les pays développés, on s'occupe d'eux, il n'y a pas de problème. Bien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, pour considérer dans l'argument, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en deçà d'un certain seuil de qualité, ce qu'a dit M. Corneloup, et on va reprendre, je vais faire une autre citation après, en deçà d'un certain seuil de qualité, il y a des vies qui ne valent pas d'être vécues. Eh oui, c'est ça que ça veut dire. Le principe central, il est là. En dessous d'un certain seuil, c'est pas un homme. C'est pas un homme. C'est ça que ça veut dire. Voilà ce que disait le professeur Crick. Le professeur Crick est un prix Nobel, en 62, très célèbre, parce que c'est lui qui a découvert la structure hélicoïdale de l'ADN, bon, c'est-à-dire la manière dont nos chromosomes sont faits. Il est très célèbre. Eh bien, il affirmait la chose suivante. De nouvelles définitions légales de la vie et de la mort sont nécessaires si l'on ne veut pas que l'explosion démographique pose un problème de qualité autant que de quantité. Par exemple, on pourrait envisager une nouvelle définition légale de la naissance en repoussant la date de 2 jours après la délivrance. Cela permettrait d'examiner les nouveau-nés qui ne sont pas des êtres humains au vrai sens du terme et d'administrer l'euthanasie à ceux qui sont nés avec une difformité quelle qu'elle soit. Voilà. Pour eux, vous comprenez, c'est simple. Ils ne sont pas des hommes. En dessous d'un certain seuil, ce ne sont pas des hommes. Alors, on va prendre un barème qui va être forcément différent suivant les uns et les autres. Et puis on dit au-dessus de tant de degrés, c'est bon. En dessous, c'est mauvais. On les élimine. C'est ce que dit un auteur qui dit plaisamment la chose. Enfin, c'est M. Schoyans qui a écrit un livre « Bioéthique et population ». Les riches semblent disposer d'un mystérieux engin appelé eudémomètre. Eudémomètre, ça veut dire qu'ils mesurent le bonheur. Eudémomètre, hein. Appareil qui permettrait de mesurer le bonheur. Leur appréciation est en fait basée sur les statistiques relatives aux revenus. À partir de là, les riches estiment que la vie des pauvres n'a pas de sens parce qu'ils ont un faible revenu. Il faut donc, disent-ils, empêcher les pauvres d'avoir des enfants. La vie des pauvres vaudrait la peine si ces pauvres avaient accès au plaisir et à la richesse qui ouvre la voie. Et puis ça, ben, on pourrait le transférer à d'autres utilisateurs qui mettraient une autre graduation, une autre échelle. C'est le principe central, il est là. Il y a une certaine qualité en dessous, on n'est pas des hommes, au-dessus, on est des hommes. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire une page, c'est assez extraordinaire. C'est un autre prix Nobel. Les prix Nobel, c'est vraiment délirant. C'est assez délirant, il faut les lire. C'est un certain Richet, français. Je vous lis maintenant ce qu'il écrit à ce sujet-là. L'infériorité de la race noire est éclatante. L'œuvre de la race noire a été égale à zéro. Des millions et des millions de nègres ont respiré, vécu et souffert aussi, les malheureux, sans aucun profit ni pour l'humanité présente ni pour l'humanité future. Toute cette immense population humaine, par suite de l'imbécilité de son intelligence, n'a pas fait avancer la marche en avant de l'humanité plus que les milliers et les milliers de bestiaux qui peuplent depuis des siècles les pampas du Sud-Amérique. Tout mélange de cette race dégradée avec la nôtre ne peut être que funeste. C'est ça le génie, il faut bien comprendre. Et il continue. Alors pour la race jaune, un petit peu mieux. Rien ne serait changé par l'absence de la race jaune. Nous n'y aurions perdu ni un terrain, ni une expérience, ni une machine. Nous aurions quelques potiches de moins. Alors il continue, vous allez voir cette page, c'est tout le génisme est dans la page que je vais lire. Après l'élimination des races inférieures, alors l'élimination, il y a un auteur qui triche un peu parce qu'il cite cela en disant qu'il veut les éliminer physiquement. Non, l'élimination, il ne faut pas non plus faire dire autre chose à un auteur que ce qu'il dit. Il veut dire simplement qu'il ne faut pas se métisser avec eux. C'est ça que ça voulait dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut les exécuter. Le premier pas dans la voie de la sélection, c'est l'élimination des anormaux. Et puis ça, et on y est arrivé maintenant. On y est arrivé. En proposant résolument cette suppression des anormaux, je vais assurément heurter la sensiblerie de notre époque. On va me traiter de monstre parce que je préfère les enfants sains aux enfants tarés et que je ne vois aucune nécessité sociale à conserver ces enfants tarés. Je n'ignore pas l'admirable dévouement des maîtres qui enseignent les sourds-muets. Je tiens l'abbé de l'épée pour un des plus généreux et nobles esprits de tous les temps, mais tout de même son œuvre paraît stérile. À quoi bon avoir donné un semblant de vie à des êtres imparfaits condamnés à l'imperfection ? Où est l'avenir de pensée chez les sourds-muets ? Ces ébauches d'humanité, ces disgraciés condamnés en eux ou en leur descendance à être toujours des rebuts, ces pauvres avortons, dués de défectuosité physique et de tare mentale, ne peuvent inspirer que pitié, dégoût et aversion. À force d'être pitoyables, nous venons des barbares. C'est barbarie que de forcer à vivre un sourd-muet, un rachitique. Ce qui fait l'homme, c'est l'intelligence. Une masse de chair vivante sans intelligence humaine, ce n'est rien. Il y a là mauvaise matière vivante qui n'est digne d'aucun respect ni d'aucune compassion. Les supprimer résolument, ce serait leur rendre service. Vous comprenez pourquoi, avant de commencer à utiliser ces textes, il tique un petit peu, les eugénistes sont convaincus. Bon, et puis, ça continue comme ça. Nous n'admettons pas qu'on nous reproche la cruauté. Il n'est de cruauté que si une conscience humaine est opprimée ou supprimée. Or, ces petits enfants nouveau-nés n'ont pas encore de conscience. En les arrêtant de leur évolution, on ne leur inflige ni torture ni souffrance, car pour souffrir, il faut penser et ils ne pensent pas encore. Ah, s'ils étaient capables de penser, ils nous remercieraient de notre clémence, puisqu'ils ont la certitude d'un avenir misérable et que nous leur avons épargné d'indicibles souffrances. Donc, et en plus, il estime que... On devrait le remercier pour cette page. Bien. Ça me rappelle, ça me fait venir à la pensée, ce qu'écrivait également le docteur Pierre Simon, qui a été cofondateur du planning familial, ancien conseiller technique au ministère de la Santé et ancien grand maître de la Grande Loge de France, qui a écrit un livre très célèbre, dont vous avez peut-être entendu parler. Je ne vais plus me rappeler le titre. De la vie avant toute chose. Ça va me revenir. Voici ce qu'il disait. Il redit la même chose d'ailleurs qu'il avait écrit dans son livre. C'est un livre introuvable. Il a été, quand il est publié, il a très rapidement disparu parce que à l'époque, il a été écrit en 69, je crois. 69. Et alors, il mettait en cause Madame de Gaulle pour la loi Neuwirth. Alors, le livre a très rapidement disparu des librairies, il est difficilement trouvable. Et voilà ce qu'il disait. La vie est ce que nous en faisons. Il faut redéfinir la vie, il ne faut pas sacraliser la vie. La vie nous est donnée en gestion. Pour moi, la vie est un matériau qui se gère. Je suis pour l'éradication des maladies génétiques. Lorsqu'on fait un prélèvement corial, c'est-à-dire une amniosynthèse, c'est-à-dire on vérifie l'état de maladie de l'enfant, et qu'on trouve des chromosomes défectueux, je prône l'avortement. Voyez-vous ? Donc effectivement, Dr Richet n'est plus réclamé, mais il y a ces gens-là derrière qui continuent à travailler. C'est de la vie avant toute chose. Je crois que c'est de la vie avant toute chose, le titre de son livre. Donc, voyez-vous, la pression extraordinaire qui est faite au point de vue moral. Ce qui compte, c'est la qualité de la vie. Et alors, aussi bien au plan national qu'au plan international, c'est cela qui est prôné. Et la pression est mise là-dessus, la qualité de la vie. Si bien que ceux qui ont une vie inférieure, qui ont une vie qui ne vaut rien, ils n'ont pas le droit de vivre. Il faut qu'ils diminuent, il faut qu'on les élimine le plus possible. Ça, c'était la pression morale. La pression médicale. La pression médicale, elle est également assez hallucinante. Voici un texte qu'on peut citer. Il y en aurait beaucoup à citer. C'est impressionnant. C'est inimaginable. À la limite, c'est inimaginable. Voici ce que disait... c'était le professeur Testard. Le professeur Testard... a été le père du premier, enfin le père entre guillemets, du premier bébé éprouvette français. Parce que le premier bébé éprouvette, c'est en Angleterre qu'il a été fait par le docteur Edwards. Ensuite, c'était ici en France, c'est le père professeur Testard. Et c'est un marxiste, léniniste. Et voici ce qu'il avouait il le trouvait pas normal, mais enfin, voici ce qu'il avouait dans un de ses livres. Quand une malformation ou une maladie est diagnostiquée pendant la grossesse, et même s'il existe des traitements adaptés, les parents sont de plus en plus nombreux à recourir à l'interruption thérapeutique de grossesse ou ITG. C'est-à-dire que là, il distingue, dans la loi Veil, il y a plusieurs choses. Il faut savoir, il y a l'interruption volontaire de grossesse, IVG, c'est pendant les 12 premières semaines. C'est-à-dire que ça, c'est c'est par convenance de la mère. Si elle estime qu'elle est dans un état de détresse, il y a un certain nombre de conditions qui sont réclamées, il faut qu'elle ait consulté une première fois, il faut qu'elle ait vu s'il n'y a pas d'autre solution. Bon. Et puis, la loi comporte aussi, mais c'est une chose qui existait avant, ce qu'on appelle l'interruption thérapeutique ou médicale, enfin il y a les deux. Interruption médicale de grossesse, c'est quand il y a un danger pour la vie de la mère. Interruption médicale de grossesse. Sachez bien, aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Avec la perfection de la surveillance et des techniques médicales, ça existe, mais peut-être dans un cas sur un million, 10 millions, et encore, c'est vraiment parfaitement contrôlé. Bon, mais on l'utilise quand même. Et puis l'interruption thérapeutique de grossesse, c'est quand il y a un risque, je dis bien un risque, que l'enfant soit gravement atteint, qui risque de mourir à la naissance, qu'il soit gravement atteint d'une maladie incurable. Un risque suffit. Voilà ce qui se passe. Donc les parents, dès qu'il y a, même s'il y a des traitements adaptés, on découvre une maladie pendant la grossesse, eh bien les parents sont plus nombreux à recourir à l'interruption thérapeutique de grossesse. Aujourd'hui, la majorité de ces ITG sont justifiées par des anomalies fœtales et celles-ci sont de plus en plus découvertes incidemment. Le département des Bouches-du-Rhône dispose depuis 1984 d'un enregistrement systématique des anomalies congénitales où il apparaît que seulement un tiers des ITG concernent des grossesses surveillées parce qu'à risque identifié. Ça veut dire que les deux autres tiers, c'est une découverte fortuite. Alors il donne un exemple du syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de Turner. Le syndrome de Turner, c'est un enfant qui a un chromosome X en moins. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne, bon, c'est une fille qui a une morphologie un peu spéciale, qui n'est pas forcément arriérée mentale, elle peut l'être un petit peu, mais pas forcément arriérée mentale, et puis qui a une apparence, une morphologie un peu spéciale, bon, je ne sais pas très gracieuse, mais ce n'est pas quand même quelque chose de très grave, le syndrome de Turner. Ou le syndrome de Klinefelter, c'est un chromosome en plus, non plus, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Bon. Eh bien, à chaque fois que quelque chose soit découvert, immédiatement, on peut être tranquille, il va y avoir l'ITG. Mais ensuite, la découverte d'une anomalie même mineure, ou l'ambiguïté d'un diagnostic conduit presque toujours à l'ITG, les parents craignant d'avoir un enfant anormal, craignant, tandis que les médecins craignent la faute qu'on lui reprocherait, voire le procès qu'on lui intenterait s'il naissait un enfant mal formé. C'est ce que certains médecins ont appelé l'étau de la médecine fœtale. Un récent rapport d'expertise réalisé pour le ministère de la Santé en 1991 souligne que la loi française est la plus souple au monde en matière d'ITG, puisque l'intervention est possible jusqu'à la naissance. Jusqu'à la veille de la naissance, on a le droit. Et estime que les moyens d'évaluation mis en œuvre, bon, ça c'est le moins important. Alors il y a cette pression médicale terrible. Et ça, c'est pas une chose... Bon, le professeur Testard dit ça, mais ça, on pourrait en citer des cas et des cas. Il y a eu un très intéressant congrès international d'éthique médicale en 91, dans lequel les médecins eux-mêmes reconnaissent la pression terrible qui est faite. Je vais tâcher de vous citer quelques passages, parce que ça vaut vraiment le coup. Voici. Il est vrai cependant que l'incertitude en matière de diagnostic prénatal a un caractère spécifique et redoutable, puisque beaucoup de parents et un grand nombre de médecins souhaitent utiliser la loi lorsque la normalité du fœtus n'est pas assurée. Qu'est-ce que ça veut dire, la normalité? La mort de l'enfant à naître est légale s'il y a une forte probabilité que le fœtus soit atteint d'une affection incurable. Je ferai remarquer que la loi toujours prudente n'exige pas une certitude, mais seulement une forte probabilité. Dans ce contexte légal, particulier à la médecine fœtale, l'incertitude prend une signification grave et doit être gérée avec une particulière prudence. Et oui, pourquoi? Parce que, évidemment, ça va être demandé systématiquement. Dès qu'il y a la moindre petite chose, ça va être demandé. Alors, à chaque fois qu'on annonce quelque chose, qu'est-ce qui se passe?
Même si on dit peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose, l'annonce est toujours pénible, voire désastreuse, et provoque le plus souvent un traumatisme affectif et psychique, d'autant plus grave que la notion de malformation est devenue intolérable pour les couples qui programment désormais les grossesses et entendent bien avoir l'enfant qu'ils désirent, quand ils le désirent, comme ils le désirent, c'est-à-dire à terme, sain et parfaitement conformé. Comme maintenant, il y a cette notion, comment on programme les enfants ? Avec la contraception, on veut l'enfant parfait, l'enfant est devenu un bien de consommation. Alors, s'il y a même le risque qu'il n'ait pas tout à fait les yeux de la couleur qu'on voulait, le nez, il est éliminé. Mais ce sont des choses invraisemblables. Même des maladies qui ne sont absolument, par exemple, dont l'enfant ne souffrirait pas, je veux dire, au point de vue psychique, mais par exemple, il pourrait avoir une malformation du visage qui le rendrait disgracieux. On élimine, forcément. Dès qu'il y a le moindre doute, par exemple, prononcer le mot, ici, c'est dans un autre, il dit, par exemple, prononcer le mot nain, vous êtes sûr que l'enfant, il meurt. Si vous dites devant des parents, il va sans doute être nain, votre fils. Alors, il n'arrive pas au bout. Celui-là, il n'arrive pas au bout. Il faudrait citer, il y a des pages et des pages entières à citer à ce sujet-là. Et ils admettent bien sûr que la norme est variable suivant les individus. Bon, chaque individu a sa norme et on ne peut que respecter la norme de chacun des couples. Bien sûr, on ne va pas imposer une norme soi-même. J'insiste beaucoup, dit-il, sur cette nécessité, lorsqu'une parole fâcheuse a été prononcée et qu'il a été parlé d'un anisme, il est très difficile de rattraper la situation. J'ai vu des grossesses normales interrompues pour cette cause. Et pas qu'une seule. Et cette pression, cette pression médicale, parce que là, ils essayent parfois, c'est un congrès, donc on ne va quand même pas dire les choses comme ça, les médecins essayent parfois de s'en dédouaner, ils disent non, c'est pas nous qui faisons les choses. Mais en réalité, très souvent, ce sont eux qui poussent. Ce sont eux qui poussent, alors que les couples seraient indécis. Et le fait que cette pression médicale engendre un véritable racisme, je dirais, contre les anormaux, je vais vous citer deux histoires. La première histoire, c'est une femme qui était transmettrice de l'hémophilie. Donc, elle avait un père hémophile et elle pouvait donc avoir des enfants hémophiles. Elle était enceinte, c'était son deuxième, un garçon. Et puis, on lui dit, il y a des chances que votre fils soit hémophile. Alors, elle réfléchit, elle ne va pas faire un avortement. Et elle avait un frère qui était hémophile. Et quand son frère a appris ça, il lui a dit, si tu fais ça, moi je ne te verrai plus jamais. C'est logique, vous comprenez. Lui était hémophile. Elle le tue parce qu'il est hémophile, cet enfant qu'elle a en son sein. Et lui qui est hémophile, il pourrait continuer à regarder ça. Et une autre histoire qui le montre encore plus. C'est un couple qui se présente à la consultation. L'époux avait une malformation. Bon, c'est terrible, enfin bon. Il n'avait pas d'avant-bras. C'est une malformation connue. Il n'a pas d'avant-bras, c'est-à-dire que les mains sont insérées directement au niveau du coude. Bon, de façon relativement rare, mais qui existe. Et la femme était enceinte et elle demandait au médecin la chose suivante. Et je pose les questions suivantes. Est-ce que cette maladie est génétiquement transmissible? Est-ce qu'on peut le déceler? Est-ce que je peux me faire avorter? Réponse du médecin, oui, elle est légitimement transmissible. Deuxièmement, oui, on peut le déceler. Troisièmement, oui, évidemment, le droit de vous faire avorter. On a fait l'analyse, c'était un enfant qui était atteint de cette maladie-là. Bon, la femme s'est fait avorter. Peu de temps après, le mari est venu voir seul le médecin. Alors voilà ce qu'il a dit au médecin. Il a dit, écoutez, je comprends bien ma femme, parce que elle vit avec moi, sait que c'est quelque chose de relativement difficile. Maintenant, moi, je suis heureux. J'ai un métier, j'ai une famille, je vis de manière heureuse. Ma femme, quand elle a tué cet enfant, c'est un peu moi qu'elle a tué. Comprenez bien. C'est un véritable racisme. Cela, on peut vraiment l'employer, ce mot-là. Contre les pauvres, les déshérités de la terre. contre les malheureux qui ont le désavantage d'être nés avec quelque chose qui n'allait pas tout à fait droit. Comprenez ce, à quoi ça aboutit. Il y a donc cette pression médicale. Cette pression médicale, elle s'exerce particulièrement à travers les moyens. Il y a, vous savez pas, mais actuellement, pendant la grossesse, il y a ce qu'on appelle l'échographie qui permet de visualiser de manière assez, d'ailleurs de mieux en mieux, on arrive à des résultats qui sont assez spectaculaires maintenant, visualiser le fœtus, l'embryon, et il y en a. On en fait à peu près systématiquement toujours trois au cours d'une grossesse, parce qu'il y en a trois qui sont remboursés par la sécurité sociale. Alors, évidemment, celles-là, on les fait. Bon. Mais attention, ils ne sont pas fous. On a placé ces échographies à des moments bien spéciaux. On en a placé une au premier mois, si je ne m'abuse, ou peut-être c'est à six semaines, au premier mois. Bon, pourquoi ça? Parce que ça permet de détecter s'il y a vraiment grossesse, s'il y a un certain nombre de choses. On a passé une deuxième au quatrième mois. Et ça, ce n'est pas innocent. On l'a placé au quatrième mois parce qu'au quatrième mois, un diagnostic prénatal par amniosynthèse va être le plus facile. C'est-à-dire qu'une amniosynthèse, c'est le fait d'aller piquer avec une aiguille pour récupérer du liquide amniotique, c'est le liquide dans lequel baigne l'enfant. On récupère quelques cellules et puis à ce moment-là, on peut faire un diagnostic de karyotype, c'est-à-dire voir si l'enfant a une anomalie chromosomique. Bon, il y a déjà un risque de 3 à 5% d'avortement dans une amniosynthèse. Déjà. Bon. Et puis, évidemment, si, par exemple, par malheur, il y avait un chromosome en trop, par exemple le 21e, juste pour donner un exemple, ben, voilà, on peut faire l'avortement. Cette échographie du quatrième mois, elle a été placée là pour éliminer ceux qui seraient indésirables. C'est un moyen de pression colossal. Comprenez, quand l'échographiste est là, imaginez, surtout vous, mesdames, imaginez, il est là, il passe la sonde et puis il dit rien. Il dit rien. S'il sait bien retenir ses nerfs, il va pas tiquer du tout, sinon il va commencer à être là sur sa chaise, on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comprenez tout de suite ce qui va se produire. J'ai entendu des femmes en parler. La pression terrible qui ont eu des enfants mal formés, la pression terrible qui a été faite sur des personnes qui étaient absolument décidées à garder l'enfant, mais la pression effroyable qui a été faite. Alors évidemment, ça commence après, pendant, on commence à leur dire, vous savez, votre enfant a ceci, cela, évidemment, et puis, oh, il risquait de mourir, et puis ensuite, on raconte des tas de choses, et puis on arrive à faire avorter la femme. Diagnostic prénatal. Ça, le diagnostic prénatal, ben, il paraît que la loi dit qu'il n'y a pas de sélection des personnes. Il y a un diagnostic prénatal. On pourrait même aller plus loin. Il est question de ne pas. Il n'est pas question en France pour le moment. Mais il y a des pays dans lesquels une femme à risque ayant refusé le diagnostic prénatal, eh bien, on ne lui donne pas d'aide financière. Si l'enfant est anormal. Et je connais une autre histoire comme ça. Une femme, l'enfant est anormal, ça on l'avait détecté, qui avait dit, moi je le garde jusqu'au bout, je le ferai baptiser, il mourra, et c'est tout. C'est ce qui se produit, elle accouche, l'enfant est baptisé, il meurt le lendemain. Bon, puis c'est terminé. Et bien ensuite, la caisse d'allocation, enfin, c'était aux États-Unis, a écrit en disant, eh bien, on refuse de vous payer cet accouchement et cette hospitalisation d'une journée parce que vous saviez que l'enfant était mal formé, vous avez refusé l'avortement. Bon, ça, c'est aux États-Unis. Mais enfin, oui. Donc, vous comprenez la pression médicale effroyable qui est faite. On pourrait parler de la pression économique. Alors, la pression économique, celle-là, c'est celle surtout des groupes de pression économique. Je ne vais pas m'y étendre beaucoup, mais enfin, on pourrait citer, ça pourrait être presque fastidieux, tous les groupements internationaux qui luttent par leur argent pour obtenir l'avortement, pour obtenir l'éradication de ces maladies, bon, spécialement dans les pays sous-développés, mais évidemment, ça a forcément un rajeunissement également dans nos pays. on pourrait citer, enfin, l'argent qui est mis là-dedans, ça correspond au budget de plusieurs nations. De plusieurs nations. C'est un argent, il y a une quantité d'argent incroyable, puisque évidemment, il y a le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population. Il dépensait 1/6 de son budget pour ce genre de programme. Ça représente environ plus de 200 millions de dollars. L'OMS, 310 millions de dollars pour cela. La Banque mondiale, dans le monde, hein, évidemment, c'est pour les choses dans le monde. Elle, c'est pas une autre manière, elle fait pression sur les pays pour qu'ils aient une législation qui permette l'avortement. Parce que ça permet ensuite de faire ce genre de manœuvre. Bon, là, je ne vais pas insister sur la pression économique, parce que là, il y aurait beaucoup de chiffres qu'on pourrait citer. Une quantité assez impressionnante de fonds aux États-Unis, c'est-à-dire des personnes qui collectent des fonds, consacrent leurs fonds à cela. Il y a le fonds, évidemment, Rockefeller, il y a la fondation DARPER, il y a la fondation, la PASS Foundation, enfin bon, il y a tout un tas de fondations qui consacrent des millions et des millions de dollars chaque année à cela. Et enfin, dire un mot de la pression scientifique. La pression scientifique. C'est-à-dire que la pression scientifique, c'est le fait, ce sont toutes les erreurs scientifiques ou scientifiquement conçues qui sont derrière ce système. L'erreur centrale, je vous l'ai montré, c'est le problème de cette qualité de la vie. On met une barrière et ensuite, eh bien, à partir de cette barrière, on met des gens au-dessus, on met des gens en-dessous. Mais il y a tout un tas d'erreurs de scientifiques qui traînent à ce sujet-là. Il y a une première erreur qui est celle de la confusion, ou si vous voulez, de l'oubli complet de la vie morale, ou la confusion entre la vie intellectuelle et la vie morale. Parce que dans tous ces systèmes, il est dit qu'on veut améliorer l'état des populations en élevant leur niveau intellectuel, parce que c'est ça, normalement, qui est prévu. Bien. Mais, on oublie une chose, quand bien même on élèverait le niveau intellectuel des populations, ça n'élève pas leur niveau moral. Et ce qui compte dans un pays, bien sûr, il faut avoir des intelligences, ça c'est clair, ce qui compte malgré tout, c'est la vie morale. S'il n'y a pas de vie morale, plus on est intelligent, plus on peut faire de mal. Satan, il n'est pas bête du tout. C'est même l'enjeu le plus élevé, dit-on. Et oui, on oublie complètement ça. Et ça, c'est jamais pris en compte. Par exemple, il y a des tests pour mesurer l'intelligence. Tests qui sont d'ailleurs, sachez-le, plus ou moins fumeux. Il y a eu des faux célèbres pour montrer l'hérédité de l'intelligence. On voulait montrer que l'intelligence était héréditaire, alors il y a eu un faux très célèbre fait par un certain Cyril Burt qui a pris 80 paires de jumeaux fictives. Ils n'existaient pas, ces 80 paires de jumeaux. Ils étaient sortis de son cerveau. Bon. Enfin, ça, c'est un exemple. Et eh bien, tous ces tests-là mesurent soi-disant l'intelligence, mais ne mesurent pas la vie morale. Là, il y a une confusion très grave. C'est une pression au point de vue scientifique qui est capitale. Bon. Ensuite, il y a le scientisme, le fait de ne regarder les choses que sous l'angle scientifique. Je pourrais vous citer un rapport qui a été fait au Conseil de l'Europe par un certain M. Palacios, qui est un scientifique, et qui essaie de nous démontrer, précisément, que seul le point de vue scientifique compte. Voici ce qu'il dit. La valeur humaine de ce genre d'intervention, c'est-à-dire des expériences sur l'embryon, est scientifique. Et l'homme peut faillir à sa nature en renonçant sciemment ou non à la pleine réalisation de son être, en ne saisissant pas l'occasion d'améliorer ses connaissances, de progresser. D'où il apparaît que la valeur humaine de ces expériences prime sur les réserves morales qu'elles peuvent susciter. Voilà. On met la science au-dessus de tout. La science est la valeur suprême. Il n'y a rien au-dessus de la science. La C'est oublier que, bien sûr, il y a beaucoup de choses sur la science. C'est oublier, comme dit saint Thomas, il dit bien que la vertu, il y a deux sortes de vertus. Il y a des vertus intellectuelles, il y a des vertus morales. Les vertus morales, elles sont plus importantes que les vertus intellectuelles d'une certaine manière parce qu'elles donnent non seulement l'usage, mais elles donnent aussi le bon usage. Quand on a la vertu, on a le bon usage, forcément. Tandis que la science, qui est une vertu intellectuelle, dans l'intelligence cette fois-ci, elle donne l'usage. Par exemple, on peut être un très grand grammairien, un très grand... mais elle ne donne pas forcément le bon usage au point de vue moral. On peut être un très grand grammairien et être un voleur. C'est une considération, c'est une erreur capitale sur la hiérarchie des sciences. Et puis, il y a l'erreur, enfin, la dernière erreur, celle qui dirait, eh bien, nous devons aboutir à un surhomme. Il y en a qui l'avouent, on doit aboutir, ils veulent aboutir à un surhomme. Donc, Edwards, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Robert Edwards, le père du premier bébé éprouvette, un anglais, a dit textuellement, nous devons améliorer l'espèce humaine. Nous devons améliorer l'espèce humaine. Et il explicite un peu sa pensée en disant, nous devons pouvoir arriver, grâce à ce système de l'eugénisme, enfin bon, tout un tas de choses, on peut arriver à des créatures qui dépasseront de 100 coudées les créatures mythologiques, les dieux mythologiques. On pense au surhomme. Il y en a d'autres. Le directeur en France du programme Génome Humain, c'est-à-dire qui essaye de coder tout le génome humain de l'homme, un certain Cohen, disait « On n'arrête pas le progrès. » C'est bien ce que ça veut dire. On n'arrête pas le progrès. De toute façon, on y arrivera. Vous inquiétez pas. Eh bien, évidemment, cette erreur, je termine là-dessus, cette erreur, c'est une erreur qui est également une erreur capitale. Saint Thomas explique ça de manière très très amusante. Il dit, ce qui est impossible, on ne peut pas le penser. Ce qui est impossible, on ne peut pas le penser. Je pense que vous êtes d'accord jusque-là. Bon. Eh bien, il dit, il est impossible de vouloir changer de nature. Tout être veut garder sa propre nature. Retenez, on pourrait faire une expérience. Est-ce que vous voudriez être votre voisin, votre voisine ? Voilà. Chacun veut rester ce qu'il est. C'est un instinct naturel. C'est un instinct naturel. Bon. Personne ne veut changer de nature. Aucun être. Il y a cet instinct de conservation. Bon. Alors, dit saint Thomas, il peut y avoir chez l'homme une illusion. C'est-à-dire qu'il peut vouloir acquérir des qualités qui l'amélioreraient. Par exemple, bon, être plus intelligent, être plus beau, être ceci, etc. Pouvoir voler. Sachez qu'il y a un biologiste qui s'est mis en tête de nous faire pousser des ailes. Si, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon. Mais, comme dit saint Thomas, il peut croire qu'en ajoutant des qualités ainsi accidentelles, on pourrait aboutir à une nature qui serait supérieure à nous. Mais il dit ça, c'est une illusion. On ne peut pas vouloir changer nature. Acquérir des perfections supérieures, oui. Et d'ailleurs, dans la vision béatifique, on aura une perfection suprême, nous serons identifiés à Dieu, mais tout en restant des hommes, bien sûr. C'est donc une illusion grave. Saint Thomas la dénonce de manière amusante, mais c'est une illusion très grave, celle-là. Et c'est là qui commande l'aspect scientifique. C'est-à-dire qu'on s'est mis dans la tête, depuis Charles Darwin, qu'il y avait une évolution. Eh bien, ceux qui veulent, c'est poursuivre l'évolution. Et que l'évolution, elle se termine, eh bien, on ne sait pas trop où. Et je terminerai sur ce mot du professeur Lejeune. Il dit, oui, vouloir devenir une créature plus intelligente que nous, c'est pas mal. Mais il faudrait déjà que nous soyons plus intelligents que cette créature. Traditionnelle, j'imagine, séance des questions. J'essaierai de répondre autant que je peux. Oui. Oui, enfin bon, on n'en a pas beaucoup de preuves, mais on est presque certain que les Américains. Alors, c'est terrible ce que je vais dire, ça vous semble effroyable. Les Américains ont fait la chose suivante, ils ont fait une hybridation. Alors, Une hybridation, c'est un mélange entre deux races. Par exemple, bon, ben, vous connaissez le mulet ou le bardeau, qui sont un mélange entre le cheval et l'âne. Bon, enfin. Mais ils ont fait une hybridation entre l'homme et le singe. Et ils ont arrêté l'expérience au bout de quelques mois de grossesse. Enfin, de grossesse, c'était chez le singe. Et alors l'idée qu'ils ont derrière, ils ont plusieurs idées. La première, ce serait d'utiliser cet animal comme réserve d'organes, c'est-à-dire qu'il aurait des organes proches de l'homme, donc on l'utiliserait comme réserve d'organes pour des greffes, ou l'utiliser comme esclave, effectivement. Ça peut sembler... Enfin, je ne sais pas, quand je dis ça, j'ai du mal à le dire. C'est difficile, difficile à passer. Enfin, si vous voulez... Alors là, ce serait une question. Non, ce ne sont pas des hommes. C'est clair que ce ne sont pas des hommes. Ce ne sont pas des hommes. C'est une abomination. Dans le Lévitique, précisément, il est dit que ce genre de choses est condamné vigoureusement. Et il est dit qu'il est demandé à la loi de tuer celui qui ferait une chose pareille et de tuer l'animal. Oui, c'est ça. Bon, ce sont des rappels mythologiques, si vous voulez. Bon, ça, c'est une apparence que peut prendre le démon. Ça, c'est pas. Bon, enfin, ça, c'est une chose. Il y a d'autres choses dans ce genre-là. Il y a ce qu'on appelle les chimères. Alors, les chimères, c'est autre chose. C'est pas une hybridation. La chimère, ça existe chez l'homme de manière naturelle. C'est-à-dire que c'est quand il y a deux individus, au départ, qui ne font plus qu'un seul. C'est une chose relativement rare. C'est-à-dire qu'au début, il y avait deux œufs qui étaient fécondés, et puis, pour une raison qu'on ne sait pas, alors là, on ne sait pas la raison, ben, ils ne forment plus qu'un au bout d'un certain temps. C'est très, très tôt. Alors, on s'était rendu compte de la chose parce qu'il y avait des gens qui, quand on prélevait des chromosomes, enfin, on vérifiait leur karyotype, c'est-à-dire les chromosomes qu'ils avaient, ils avaient deux séries de chromosomes, c'est-à-dire des cellules qui avaient des chromosomes bon, qu'on pouvait reconnaître très bien, et puis une autre série, ce n'était pas les mêmes chromosomes. C'était des chromosomes humains, bien sûr, à chaque fois, mais ce n'était pas les mêmes. On ne savait pas très bien à quoi c'était dû, ça. Ben ça, on le sait depuis qu'on est capable de réaliser des chimères. Alors, on a commencé par réaliser des chimères chez, par exemple, chez le mouton. On prenait deux œufs de mouton. Enfin, on appelle ça des œufs, oui. Croc, on en faisait un. Puis, on a commencé à faire autre chose. On a pris, par exemple, chèvre et mouton. Croc, on a fait une chimère. On a fait également rat et serpent. C'est ça. Et puis, il y avait un congrès, il y a un certain Will Jatzen, un biologiste autrichien. Le Conseil de l'Europe venait de dire, dire qu'il était interdit de faire ce genre de tentatives sur l'homme. Alors lui, il commence sa conférence, on m'a demandé de venir parler sur les tentatives de chimères, parce qu'il en avait réalisé un certain nombre. Et on a dit que c'était interdit sur l'homme. Mais alors, pourquoi est-ce que vous m'avez demandé de venir parler ? Il a commencé sa conférence comme ça. Il n'a rien ajouté après, il est parti sur un autre sujet, voilà ce qu'il a dit. Voilà. Donc ça, c'est un autre genre de choses. Ce n'est pas l'hybridation, c'est la chimère. Donc, voyez-vous, il existe des choses de ce genre-là. Précisément sur la date d'avortement. Nous sommes ceux qui permettent un avortement la veille, on peut faire un avortement. La veille de la naissance, ce sera encore permis. À tel point que, par exemple, voilà ce que disait le docteur Roger Le Lirzin, professeur au centre hospitalier universitaire d'Angers, se déclare partisan de la légalisation de ce qu'il appelle l'euthanasie postnatale, c'est-à-dire l'enfanticide des nouveau-nés. Dans certaines situations rares et graves, après une concertation soigneuse, il lui paraît insoutenable que l'on ait le droit et même quasiment l'obligation sociale d'exécuter pendant toute la durée de la grossesse des fœtus plus ou moins anormaux, alors qu'à l'inverse, dès que l'enfant est venu au monde, tout est mis en œuvre pour le maintenir en vie. Oui, c'est ça. Jusqu'à la veille, on aurait le droit, puis là, on ne peut plus, il a un jour de plus, ça ne va pas. Alors, il proteste. Donc, c'est de ce point de vue-là, nous, en France, nous sommes les plus laxistes. Nous permettons des interruptions de grossesse jusqu'à la veille. C'est dans ce sens-là. Pas sur les expériences. Sur les expériences, malgré tout, c'est quand même les Anglo-Saxons, les Anglais et les Australiens qui sont... Et les Américains... Mais alors, les Anglais et les Australiens, ils le disent quand ils le font, tandis que les Américains, ils ne le disent pas trop. Ils font des choses, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font. Ils ont fait des choses, par exemple, ils ont réalisé le clonage chez l'homme. Clonage, c'est l'inverse de l'hybridation, c'est-à-dire qu'on prend un œuf et puis on coupe, c'est-à-dire qu'on le coupe, on multiplie, on en fait 2, 3, 4. Bon. Ça, on sait le faire chez les animaux. On a obtenu ainsi 8 lapros absolument identiques. Bon. Enfin, identiques des jumeaux, enfin des octuplés, si vous voulez. Alors, ils l'ont fait chez l'homme, ça, les Américains. Enfin, c'est-à-dire, voilà comment ils ont fait. Ils ont fait exprès de provoquer une fécondation anormale, c'est-à-dire que c'était, de toute façon, été un être non viable, mais ils ont fait un clonage pour montrer qu'ils étaient capables de le faire. Puis ensuite, l'expérience a été arrêtée au bout de quelques jours, parce que c'était de façon non viable. Alors, quand ils font ce genre de choses-là, ça prouve qu'ils sont capables de faire autre chose. Et on sait qu'ils font des choses sans trop le dire. Les Américains, ce sont, semble-t-il, les champions des choses par derrière. Oui. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la co-culture. C'est-à-dire que... c'est-à-dire que... une fécondation artificielle est une chose absolument immorale par elle-même. La fécondation artificielle, qu'elle soit faite en dehors du corps ou par du système d'insémination artificielle, est une chose absolument immorale et condamnée. Ça, c'était bien évident. Pour plusieurs raisons, pour en citer un certain nombre. Ce reste que, comme disait Pie XII, que les produits ne peuvent pas être obtenus de manière immorale. Or, c'est une obtention immorale. C'est de manière immorale qu'on obtient les produits qui vont en donner la conception. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais enfin, ça, c'est une chose. Enfin, évidemment. Bon, enfin, c'est qu'un degré, hein, vous savez, là, de ce côté-là, on peut en citer des kilomètres. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Enfin, j'ai dit que, attention, mais vous savez que le problème de l'homme de Cro-Magnon est très contesté. De plus, très contesté, je vais vous expliquer. Il y a un certain nombre de scientifiques non négligeables qui pensent que l'homme de Cro-Magnon n'est pas du tout en train d'évoluer, mais il est en train d'involuer. C'est-à-dire que l'homme de Cro-Magnon serait un homme qui serait atteint d'une maladie qu'on appelle l'acromégalie et qui vivait dans une grotte. Aujourd'hui, qui est-ce qui vit dans les grottes ? Ce sont les exclus, finalement, je prends le vocabulaire, qui serait tout simplement un homme atteint d'une certaine maladie qui vivait à cette époque-là. Mais pour dire que c'est une branche dans l'évolution, c'est comme l'homme de Néandertal. On a voulu faire dire beaucoup de choses à l'homme de Néandertal, par exemple, qui ne parlait pas. Maintenant, on est sûr qu'il parlait, il avait un langage parfaitement semblable au nôtre, d'après... et certaines expériences sur les os, ces os de la gorge, etc. Là, ce sera un problème très, très vaste. Il y a une certaine adaptation, ça, je le concède, tout à fait. Oui. Non, la loi Veil dit... Le premier article de la loi Veil dit la loi dit qu'il faut défendre la vie dès la conception. Premier article de la loi Veil. Bon. Alors ensuite, qui est-ce qui est dit ? La loi Veil, comprenez bien, est une dépénalisation de l'avortement. C'est-à-dire, l'avortement demeure interdit, il est condamné par le Code civil, l'article 317, mais, le code pénal, article 317, mais, dans certaines circonstances, celui qui pratique l'avortement ne sera pas puni. Il est dépénalisé. Pourquoi ? La raison qui a été invoquée au moment de la loi Veil et qui a emporté le morceau, ce sont les avortements clandestins qui sont mortels pour les femmes, qui sont traumatisants, etc., etc., dont on a gonflé le chiffre de manière extraordinaire. L'INED a été pris la main dans le sac. L'INED, c'est l'Institut National d'Études Démographiques, qui est un institut dont il est vrai que le monde nous l'envie, parce que c'est remarquable par certains côtés. Eh bien, il avait truqué les chiffres. Il avait truqué les chiffres et on l'a dénoncé. Madame Veil, c'était pas elle qui défendait à ce moment-là, c'était une autre, montée sur ses grands chevaux. Et puis, trois jours après, dans une petite note en bas de page, l'INED a dit oui, effectivement, le chiffre était mal interprété, par exemple. Donc, la raison, c'est une raison de santé publique. On dépénalise, c'est-à-dire qu'on ne condamnera pas celui qui fait de l'avortement. Mais il y a encore des gens condamnés pour avortement illicite aujourd'hui. Il y en a eu 4, paraît-il, l'année dernière. Avortement illicite. Voilà, ah oui, tout à fait. On dépénalise. On reconnaît que la personne peut tuer dans ce cas-là. Parce que, alors après, la femme est maître de son corps, et puis etc., et puis, etc., etc., etc. Voilà, on va ressortir tous les arguments, mon corps est à moi, et puis. Donc c'est ça la loi Veil, il faut bien le comprendre, c'est une dépénalisation. Et précisément, c'est le terme qui est employé dans la loi allemande qui vient de passer. Oui. Oui, ils n'ont pas beaucoup diminué les harcèlements clandestins. Donc ça, c'était... Et puis alors, on avait dit que ça ferait diminuer le nombre d'avortements global. Or, c'est faux, ça les a augmentés. On a augmenté parce que les avortements clandestins, et on peut diminuer les avortements non clandestins et se maintenant à un certain taux, eh bien, on arrive à un total quand même respectable. Si vous parlez de l'attitude pratique de l'Église, oui, parfaitement homogène, toujours. Si vous parlez de l'attitude théorique, c'est-à-dire la justification théorique, alors là, effectivement, il y a eu parfois des petites variantes. On trouve chez des pères de l'Église des justifications qui ne sont pas forcément les mêmes que d'autres pères de l'Église. Et on trouve en particulier sur la conception, par exemple, de savoir à quel moment l'âme humaine apparaît dans l'embryon, il y a des distinctions. Mais ça ne change rien. Par exemple, saint Thomas d'Aquin, qui est pour ce qu'on appelle l'animation médiate, c'est-à-dire qu'il admet que l'âme humaine n'apparaît dans l'embryon qu'à partir du 40e jour, mettons, il dit que l'avortement malgré tout interdit, parce que l'être qui est avant est quand même un être humain. Pas au sens qu'il est encore une âme humaine, mais il a une âme. Une certaine âme qu'on appelle âme animale, mais qui est d'espèce humaine, qu'il appelle l'espèce humaine incomplète. Donc, ça n'empêche pas que l'attitude théorique de l'Église n'a jamais varié d'un iota. De ce côté-là, jamais. Mais la justification théorique, on a trouvé même des théologiens laxistes qui ont dit, puisque c'est ça, jusqu'au 40e jour, on peut faire l'avortement, qui ont été condamnés. Mais vous voyez qu'il y a eu, du point de vue de la justification théorique, ça a parfois varié. Bon, par exemple, l'Église maintient qu'il faut baptiser tout produit de la conception, quelle que soit la date de l'avortement. Si y a un avortement, fausse couche, l'Église dit qu'il faut baptiser, quelle que soit la date. On peut douter qu'il soit encore vivant. Donc l'attitude pratique de l'Église n'a jamais varié là-dessus. C'est simplement sur la justification théorique. Là, oui, ça a pu varier. Enfin, on trouve déjà des belles paroles comme Tertullien, il est déjà un homme celui qui doit devenir un homme. Mais dès le début, je pourrais vous en citer, dès le début, la Didaquée qui date vraisemblablement du début, de la fin du 1er siècle, elle interdit déjà l'avortement. Et on trouve sans cesse, alors ça, les pères de l'Église, on peut en citer des kilomètres là-dessus. D'autant plus que c'était une chose, parce que les pères de l'Église, surtout au début, étaient obligés de se défendre, l'Église étant attaquée. Alors ils avaient deux méthodes. La première méthode, il réfutait les accusations qu'on faisait, parce qu'on accusait les chrétiens, alors tout un tas de choses. Même s'il pleuvait, c'était la faute des chrétiens. S'il pleuvait pas, c'était la faute des chrétiens. Je vous garantis, c'était bon. Alors, ils ont réfuté, et puis en même temps, ils contre-attaquaient en montrant les erreurs du paganisme, et en particulier celle-là, les erreurs morales. Alors ça, ils ont toujours montré la différence qui existait entre la doctrine chrétienne et les erreurs morales du paganisme. Et bon, l'avortement en faisait partie. Oui. Ben, précisément, c'est là où il faut être capable d'avoir suffisamment de charité pour entourer cette personne, pour lui proposer d'abord des choses qui sont toujours faites, parce que c'est pas la première fois.